Et bonjour tout le monde. La lettre aux Romains tire à sa fin. Il nous reste deux exposés cette semaine, puis la semaine prochaine, ça va être Miguel qui va vous conduire. Et on a décidé d'étirer la série d'un exposé pour pouvoir s'attarder un petit peu plus sur Romains 13. Julie va commencer la lecture un petit peu plus tôt, vers la fin de Romains 12. Dans les dernières semaines, on a vu des manifestations étudiantes. On a une couple d'images peut-être à vous montrer. Vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Mais ce matin, ce passage-là va nous permettre de réfléchir ensemble à la lumière de l'Évangile à notre rapport avec l'autorité. Notre rapport avec l'autorité et puis notre soif profonde, une soif immense de justice. C'est là en chacun d'entre nous. Et sans prétendre ce matin apporter toutes les réponses, loin de là, je vais sûrement laisser dans votre esprit encore des questions non répondues, plusieurs. On va aller dans l'Évangile ensemble pour voir quelques pistes de réponses que l'Évangile nous donne. Qu'est-ce qu'on fait avec cette soif profonde-là qu'on a de justice, de voir nos droits être défendus? On va aller ensemble dans la parole de Dieu, dans Romains 12, et si vous le permettez, on va simplement se courber ensemble dans un mot de prière avant d'écouter Julie nous lire la parole de Dieu. Père éternel, on aura beau dire, on a beau voir le monde et la terre de quelque manière que ce soit, dans le cœur de chaque être humain, il y a une soif profonde de justice, particulièrement lorsque nos droits sont bafoués, lorsqu'on a ce sentiment de subir une injustice, Seigneur. Père, ça se manifeste dans nos relations au quotidien, à la maison, avec les frères et sœurs, avec mon épouse, mon époux, avec nos conjoints, avec les collègues de travail, avec les amis, Seigneur, à l'école. Lorsqu'un prof nous tombe dessus pour une raison qui semble profondément injuste ou simplement que les charges de travail, de devoir, n'importe quoi sont injustes, Seigneur, lorsqu'on lit les médias. Père, je te demande ce matin de venir nous éclairer par ta parole afin que l'Évangile, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ vienne éclairer, Seigneur, notre rapport à la justice, notre rapport à nos droits et notre relation avec les autres. Viens, Seigneur, nous éclairer et changer notre manière de voir les choses et notre manière d'être. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre Romains, du chapitre 12, verset 17, au chapitre 13, verset 14, édition Louis II. Romains du chapitre 12, verset 17, au chapitre 13, verset 14. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
Merci, Julie. Je ne sais pas si vous êtes fan des Marvel Comics, des super-héros. Moi, je suis un fan fini de super-héros. Je rêve encore d'être un super-héros. C'est vrai ce que je vous dis là. Dans le fond de moi, là, j'ai quelques super-pouvoirs qui m'intéressent beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez le Daredevil. Le Daredevil, c'est un super-héros très connu, un drôle de nom, c'est vrai. Tenter le diable, Daredevil. Et il y a une série qui est sortie il y a une semaine, je l'ai déjà complétée, sur Netflix, avec le Daredevil. Puis c'est un personnage vraiment intéressant parce que c'est un personnage qui est un justicier de nuit. Donc, fiez-vous pas aux cornes, c'est un gars pas mal droit. Hey, t'es en train de vendre mes punchs. Justicier de nuit, avocat de jour. Intéressant. Justicier de nuit, donc de nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit la loi peut pas nous permettre de rétablir la justice. Il faut y aller par la force. Il va falloir que je m'en mêle moi-même. Et de jour, par contre, il est avocat. Alors de jour, il s'applique à essayer de rétablir la justice sociale dans la ville où il est. Et puis la nuit, non, la loi suffira pas. Il faut y aller par la force. Puis il y a cette espèce de conflit là en lui perpétuel. Et en fin de compte, à peu près tous les super-héros sont bâtis sur ce schéma-là. Cette idée-là que le système pourra pas rendre justice et il va nous falloir des gens qui vont intervenir au-delà du système pour aller faire justice. N'est-ce pas? Mais c'est drôle parce que j'écoutais la série puis là, je suis en train de méditer sur le passage dans Romains 13 puis je me disais... On a tout un petit justicier en l'intérieur de nous-mêmes, tu sais, qui veut aller faire établir la justice par nous-mêmes. C'est là en nous. On le vit au quotidien. On n'a pas besoin nécessairement d'enfiler un masque puis tout le kit. On le vit au quotidien dans nos relations. On veut établir la justice, mais souvent c'est pas simplement pour nous-mêmes, pour se protéger nous-mêmes. Ça peut être tout simplement pour rétablir le droit. On voit des injustices dans la société et puis ça nous enrage. Puis on se dit, mes amis, il faut que quelqu'un ait réglé ça. Qu'est-ce qu'on fait avec cette espèce de soif-là profonde de justice qui se manifeste dans tous nos rapports humains, qui se manifeste dans notre manière de voir la société, de juger le monde qui nous entoure? Ce matin, on va voir ensemble que l'Évangile ne nous pousse pas à réclamer justice, mais à surpasser la justice par la grâce. L'Évangile ne nous pousse pas à réclamer justice, C'est comme si la justice n'était pas suffisante. Elle nous pousse à surpasser la justice par la grâce, par la générosité. Commençons notre passage avec simplement nos rapports les uns avec les autres. C'est pour ça je suis revenu un petit peu en arrière, puis on est allé au verset 17. Ne rendez à personne, Romains 12, 17, le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Encore une fois, je l'ai dit la semaine dernière, des fois vous pouvez avoir l'impression que cette espèce de centralité de l'Évangile, lorsqu'on revient toujours à l'Évangile, ce message de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, vous pouvez avoir l'impression que dans l'Église ici, on voit ça partout, puis on en voit là où c'est pas présent. Cette pensée-là qui dit que je ne rendrai pas le mal pour le mal et que je vais chercher plutôt à faire le bien devant tous les hommes, c'est le fondement même de l'Évangile. C'est le fondement même de l'action de Dieu envers nous. Cette œuvre par laquelle Dieu a décidé, non pas simplement de rendre justice à tous les hommes, mais au-delà d'aller plus loin que ça et faire le bien, c'est le fondement même de l'Évangile. Je vous rappelle ce qu'on a vu plus tôt dans Romains 5, versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa grâce. Cette attitude par laquelle Dieu est venu vers ceux qui étaient ses ennemis, et voici en quoi nous étions ennemis de Dieu, c'est que nous ne voulions pas que Dieu dirige notre vie, nous voulions nous-mêmes déterminer ce qui est bien puis ce qui est mal, ce que je vais faire puis ce que j'ai pas le droit de faire. On marchait avec une indépendance complète envers Dieu, et ne serait-ce qu'en cela, nous nous comportions déjà en ennemis de Dieu. Mais chaque fois, ajoutant à ça, où nous faisons le mal, chaque fois où nous décidons de nous venger, chaque fois où nous décidons d'être égoïstes, de mentir, encore une fois, nous nous comportons en ennemis de Dieu, ennemis de ce principe divin qui est de faire le bien. Alors même que nous étions ennemis de Dieu, Dieu le Fils, Jésus-Christ, est venu sur la terre mourir sur la croix pour ses ennemis. Et donc Dieu n'a pas rendu le mal pour le mal. Au mal, Dieu a répondu par la grâce. Et Dieu le Fils a pris sur lui-même de prendre le châtiment de la justice, de satisfaire la justice divine en devenant pécheur à notre place. Mais à mon égard, si Dieu a eu justice par le sacrifice de Jésus, en ce qui me concerne moi, j'ai jamais eu la justice de Dieu. Moi, j'ai eu la grâce de Dieu. C'est ce que j'ai reçu. Chacun d'entre nous, si on a cru, on n'a jamais reçu la justice de Dieu. C'est ça, la grâce. C'est que justice ne te sera pas rendue. Dieu merci. Dieu merci. Christ a pris la justice de Dieu sur lui. Le châtiment pour mon péché. Alors, voyez-vous, cette attitude que Paul est en train d'appliquer dans nos rapports les uns avec les autres, c'est le fondement même de l'Évangile. Paul va plus loin que ça. Parce que dans l'Évangile, on trouve cette idée d'une grâce divine, une grâce de Dieu. Mais on trouve aussi la justice, comme je viens de le mentionner. Donc, Paul va plus loin que ça en disant, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Je vais essayer d'apporter une perspective à des comportements qu'on a dans nos relations au quotidien. Au quotidien, il arrive toutes sortes de choses. Tu es avec les gens que tu aimes, tu es avec un ami, tu es avec un collègue, tu es à la maison avec la famille, tu es avec ton épouse, tu es avec ton époux, tout ça. Puis il y a quelque chose qui se passe, puis c'est injuste, un comportement injuste. Ça éveille en toi un commentaire, quelque chose où tu es en train de dire, hey, c'est pas correct. Et donc, tu poses un jugement à ce moment-là. Puis dans le fond, ce que tu voudrais, c'est que justice soit faite. Des fois, ça va plus loin que ça. Paul dit de ne pas se venger. Donc, des fois, non seulement on veut juste rétablir la vérité dans ce qui a été dit là, mais on veut en plus se faire payer. D'accord? C'est assez terrifiant ce que Paul nous rappelle ici. Paul nous rappelle qu'un jour, la justice va être faite. Voyez-vous, toutes les injustices que je subis dans ma vie, Dieu va toutes les juger un jour. Chacune d'entre elles. Toutes mes injustices aussi, on s'entend, mais c'est pas là que je m'en vais. Toutes les injustices que je subis, ce que Paul me dit, il dit « Laisse ça à Dieu, Dieu va juger ça un jour. » Vous savez quoi, lorsque j'étais en train de lire ce passage-là, et que je réfléchissais à tous ces moments dans mon quotidien, que ce soit avec mes enfants, mon épouse, des collègues, n'importe qui, sur la route, tout ça, pour de vrai, à ce moment-là, lorsque je suis en train de méditer le texte, je veux pas vraiment la justice de Dieu sur ces gens-là non plus. Ce passage-là devient terrifiant pour moi. Parce que je veux pas, lorsque moi j'ai le goût de réclamer justice, je voudrais surtout pas que Dieu fasse justice dans ce cas-là. J'ai pas le goût que Dieu châtie. Mais Dieu va le faire un jour. Dieu va le faire un jour. Et Paul me rappelle ici que j'ai pas besoin de courir après la justice constamment dans tous mes rapports humains. Je peux m'appuyer, me reposer sur le fait que Dieu va rendre justice un jour. Et bien honnêtement, lorsque je connais la grâce de Jésus-Christ, j'ai le goût tout de suite de prier avec Jésus, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je suis pas prêt à réclamer la justice de Dieu. C'est comme si j'étais prêt à, moi, être un petit justicier si on peut faire face au grand justicier. Est-ce que vous me suivez? Ça change ma perspective dans mes relations. Mais Paul veut te rassurer, si tu as besoin de ça pour ne pas te venger, sache que Dieu va juger toutes les actions, toutes les paroles et toutes les pensées des hommes. Toutes. Parce que ça fait partie de ce fondement même de l'Évangile. Que Dieu ne fait pas grâce sans compter les fautes. Ce n'est pas une grâce, si c'est ça. Dieu fait grâce parce que sa justice, cette perfection qu'il y a en Dieu de discerner le bien et le mal. Cette semaine, j'étais à une conférence, la conversation était sur la justice sociale. À un moment donné, ça a tourné sur toute la question de ce mouvement terroriste de Boko Haram, puis tout ça, puis pour nous, c'était rassurant de se rappeler que Dieu va juger ces actions-là. Cette semaine était rappelée à notre souvenir ces 200 quelques jeunes filles qui ont été enlevées, puis il y en a juste une cinquantaine qui ont réussi à s'échapper. Et puis on ne sait pas qu'est-ce qui était devenu des autres. Dieu va juger tout cela. Et Dieu a jugé en Jésus-Christ toutes mes injustices si je crois en lui. Alors voyez-vous, je trouve dans l'Évangile cette justice et cette grâce. Et cette attitude que Paul me dit que je devrais avoir dans mes rapports au quotidien, qui est de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de rechercher ce qui est bien devant tous les hommes, c'est le fondement même de l'Évangile. C'est ça que ça veut dire, vivre à tous les jours, centré sur l'Évangile. Je vais puiser dans l'Évangile l'amour pour pardonner. Je vais puiser dans l'Évangile le rappel que Dieu va rendre justice. Et parce que j'ai mesuré à la croix, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu rend justice, son Fils qui meurt sur la croix? Je trouve encore la motivation pour ne pas réclamer justice. Je laisse ça à Dieu, mais moi je veux donner la grâce, parce que j'espère que les gens vont saisir cette grâce-là. Maintenant, tout ça, ça devient beaucoup plus concret, beaucoup plus quotidien, lorsqu'on commence à parler de notre rapport avec les autorités. C'est là que Paul s'en va ensuite. En d'autres mots, lorsque Paul commence au verset 1, Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, bien regardez ce qu'il dit un petit peu plus loin, puis si vous êtes familier avec les quatre évangiles, il y a une parole de Jésus qui va vous revenir. Rendez à tous ce qui leur est dû, verset 7. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Quelle parole de Jésus vous revient à l'esprit? Rendez à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. Et donc, ce que Paul est en train de faire, il est parfaitement en droite ligne avec les enseignements de Jésus. Puis Paul est en train tout simplement de dire aux chrétiens, puis là, je vais juste vous donner une petite fenêtre si vous voulez réfléchir un peu plus à toute la lettre aux Romains. Pensez à Romains 6. Romains 6 commence comme ceci. « Que dirons-nous donc? Pécherions-nous afin que la grâce abonde? » Est-ce que les chrétiens, parce qu'ils ont été gracieux, ne sont plus tenus à obéir à aucune loi? De toute façon, chaque fois qu'on pêche, Dieu fait grâce. Il y a eu un mouvement, il y a eu une fausse doctrine, un faux enseignement qui a circulé à travers l'histoire de l'Église qu'on appelait l'antinominianisme. Le chrétien, puisqu'il n'est plus sous la loi, n'est plus tenu à chercher à obéir à aucune loi. Et c'est ça que Paul est probablement en train d'adresser ici. La tentation pour certains chrétiens de dire « Non, mais moi je suis du royaume de Dieu, je ne suis plus du royaume de cette terre. » Puis tout ce que Paul fait ici, c'est qu'il rappelle aux chrétiens que nous croyons profondément que Dieu est souverain. On croit qu'il y a un ordre dans l'univers. Contrairement à celui qui ne croit pas du tout dans l'existence de Dieu, qui observe un certain ordre, mais ne peut pas vraiment l'expliquer, donc il ne va pas nécessairement en venir à conclure qu'on doit rendre des comptes à un Dieu souverain qui a mis un système non seulement de loi physique, mais de loi morale aussi, selon lequel on doit fonctionner. Nous, comme chrétiens, on croit qu'il y a un Dieu qui a orchestré tout ça. Il y a un créateur, il y a un designer qui a pensé non seulement le fonctionnement physique de l'univers, mais les rapports aussi entre les êtres humains, notre rapport avec cet univers-là. On doit rendre gloire à Dieu, on doit aimer notre prochain, on doit aimer Dieu, on doit servir les autres. Donc, on croit qu'on est régi par cette loi-là. Et tout ce que Paul fait ici dans le passage, c'est qu'il nous rappelle que c'est Dieu qui est souverain. Et donc, il y a un ordre dans l'univers et Dieu organise toutes choses avec ordre. L'ordre est là dans l'Église. Dieu a placé, a mis des places en place des pécheurs, premiers, pasteurs, pour conduire, pour diriger. Dieu a donné des parents aux enfants. Dieu a demandé à l'homme d'être chef de son foyer. Pas qu'il est bien, bien plus bright que la madame, ça je peux vous le dire par expérience. Mais simplement parce qu'il doit y avoir un leader, donc Dieu a donné ça. Dieu a instauré un ordre. Et ce qu'il dit ici, Paul, il nous rappelle que Dieu est souverain aussi sur le fonctionnement de nos sociétés. J'ai pas encore adressé la question des gouvernements injustes, du fait que ceux qui nous gouvernent ne sont pas tous justes. On est dans une vague depuis une dizaine d'années au Québec où le cynisme est grandissant, dans un certain sens à juste titre, n'est-ce pas? Parce qu'on découvre l'injustice de ceux qui gouvernent. Puis ça vient détruire, ça vient saper notre confiance dans ce système-là puis dans le gouvernement. Mais ce que Paul est en train de faire, il dit, regardez, je peux comprendre cette vision-là pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais rappelez-vous comment a commencé le chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La lettre aux Romains a commencé en nous disant, voici comment pensent les gens qui ne croient pas en Dieu. Puis voici maintenant ce que l'Évangile vient changer dans votre vision des choses. Par défaut, le chrétien honore les autorités. C'est notre position par défaut. Parce qu'on croit en Dieu. Parce qu'on croit que Dieu est souverain, que Dieu ordonne les choses. Et donc, même si je regarde au gouvernement, puis je regarde à des lois que je vais trouver injustes, parce qu'il y a des lois injustes, même si je regarde à des lois qui sont peut-être justes, mais qui sont appliquées de manière injuste, ou tout simplement je me dis derrière ce beau masque-là, en réalité, il y a des pécheurs corrompus qui tirent les ficelles à tout moment, dans leur intérêt, certains d'entre eux, à tout le moins, de toute évidence. Malgré tout cela, par défaut, le chrétien, parce qu'il croit en Dieu, c'est que c'est Dieu qui établit l'ordre. Et ça, c'est la position par défaut d'un chrétien. Parce que nous croyons en un Dieu d'ordre qui établit le bien, qui nous demande de défendre le bien. Et donc, jamais un chrétien n'a le droit de sombrer dans une espèce d'attitude où c'est au plus fort la poche, de toute façon, c'est toute une gang de croches, puis regarde, c'est la loi de la jungle ici, le reste, un make-up. C'est une image pour se donner un semblant d'ordre social, mais dans le fond, derrière, tout le monde est pourri, puis let's go, on tire le plus fort qu'on peut. Puis bien honnêtement, c'est pas mal comme ça que le Québec roule actuellement. intéressant, Paul veut rendre les choses très, 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 très concrètes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt. On ne restera pas dans la théorie, ouais, moi je vais voter une fois par 4 ans, puis je respecte l'autorité, il n'y a pas de problème. Non, non, tu sais si tu respectes l'autorité quand tu payes tes taxes, copain. Hein? C'est le portefeuille qui parle, c'est ça. Alors, dites-moi que les Québécois croient dans le système puis veulent honorer les autorités. Engagez un déneigeur l'hiver prochain. Pas compliqué. Faites faire des travaux de construction chez vous. C'est pas compliqué. N'importe quoi. Tout le monde dit, ben regarde, on a un make-up, on essaye de tenir ça ensemble. Personne n'y croit, le gouvernement non plus. C'est pas moi qui vais me casser la tête avec ça. Ah, le chrétien paye ses taxes. Le chrétien paye ses taxes. Il paye ses impôts. Le chrétien n'honore pas les autorités parce qu'il trouve que ce sont des gens éminemment intègres. Pas pour ça. Pensez-y juste un instant. Le gars qui est en train d'écrire ces lignes-là, c'est celui qui allait de ville en ville, qui se faisait massacrer par des gens qui le haïssaient, qui subissaient des injustices constamment. Citoyen romain, il devait se battre comme un malade juste pour pas perdre la vie. Pour autant qu'on sache, il est mort martyr. Pensez-y un instant, Jésus sur la croix. Vous pensez pas qu'il sait pas que c'est corrompu le système? T'as la seule personne qui a jamais péché de toute sa vie qui est pendue au bois comme un criminel. Il sait-tu que le système marche pas? Jésus est là, pendu au bois, soumis aux autorités. Ses disciples étaient prêts à sortir l'épée, ils étaient prêts à... Let's go, on s'en va underground, man. Guérilla, let's go! Non. Parce que c'est Dieu qui instaure les autorités. Honnêtement, Paul avait toutes les raisons de ne pas écrire ces lignes-là puis d'être super cynique parce qu'il connaît très, très bien le cœur humain. Il connaît son propre cœur. Il sait que même lorsque tu veux marcher avec Dieu, tu demeures pécheur, tu vas continuer à commettre des fautes. Et puis pourtant, il nous écrit ces lignes-là. Parce que c'est Dieu qui instaure les autorités, parce que c'est Dieu qui les met en place, parce que Dieu, ultimement, est juge au-dessus de tout ça et Dieu va rendre justice un jour. Et donc, par défaut, qu'est-ce que le chrétien adopte comme position? C'est qu'il honore les autorités, il honore les lois et il les respecte. Et c'est ça qui doit être là dans notre cœur. Il n'y a pas de place pour un chrétien à être cynique et mépriser l'autorité. La Bible ne te donne pas cette place-là, je suis désolé. Non, ce n'est pas parce qu'on est naïf, qu'on est épais, puis qu'on pense que tout le monde est bien, bien correct juste parce qu'il porte un insigne ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on répond à quelqu'un au-dessus d'eux. On répond à Dieu. Maintenant, certains d'entre vous venez de pays où peut-être, je ne connais pas vos histoires personnelles, dépendamment de votre histoire, ça se peut que vous veniez de pays où il y a un paquet de lois injustes. Peut-être même que vous venez de pays où c'était une dictature qui était en place. C'était un régime despotique qui est totalement injuste. C'est même pas un roi qui a été là, c'est quelqu'un qui a fait un putsch, qui a renversé le gouvernement. Et je ne répondrai pas à toutes ces questions-là ce matin. Les chrétiens changent les choses à travers l'histoire, d'accord? Les moments où je vois dans les Écritures qu'un chrétien va décider de ne pas respecter ce que l'autorité demande, c'est un moment où on va me demander d'aller contre la volonté de Dieu. Clairement, on l'a dans le livre des Actes. Si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, vous pouvez y penser vous-même. Mais dans Actes 4, Pierre et Jean, deux apôtres, se présentent devant les autorités. Les autorités leur disent « T'annonces plus Jésus, c'est fini, tu parles plus de lui. » Ben regarde, c'est parce que là, les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus, c'est lui le sauveur, tu sais. Fait que c'est quoi leur réponse? Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et donc, il y a ce principe que les chrétiens ont cherché à honorer depuis 2000 ans. Si le gouvernement me demande d'aller contre la volonté de Dieu, j'ai un endroit où je vais décider de ne pas obéir. Et donc, il y a une place pour une certaine désobéissance. C'est vrai. C'est vrai. Mais ce n'est pas l'attitude première d'un chrétien de dire « c'est injuste et donc je vais m'opposer ». Les chrétiens ont changé les choses à travers l'histoire de l'Église. Pensez à Martin Luther King, pasteur baptiste, qui a fait un discours absolument incroyable, qui a été déterminant après qu'on ait aboli l'esclavage 100 ans plus tôt, a fait une différence énorme. J'ai pris le temps cette semaine de relire au complet son discours qu'il a fait ce jour-là. C'est vraiment intéressant. À un certain moment donné, il y a deux paragraphes où il s'est arrêté pour dire « Maintenant, je m'adresse à vous, mes frères. On ne doit pas succomber à la violence qui nous est faite pour répondre par la violence. Ce n'est pas comme ça qu'on va changer les choses. » Et il a pris le temps de rappeler ses troupes à l'ordre. Il a pris le temps de leur dire « Regardez autour de vous, il y a non seulement des Noirs, mais il y a des Blancs autour de vous aussi. Les hommes sont frères en sens qu'ils sont tous créatures de Dieu. » Et cet homme-là a changé le cours de l'histoire des États-Unis, pas seulement à lui seul, mais définitivement, il a changé le cours de l'histoire des États-Unis. William Wilberforce, beaucoup plus tôt en Angleterre, un monsieur qui s'est converti alors qu'il était déjà député. Vous pouvez voir un super bon film, cherchez ça sur Internet, vous allez pouvoir le trouver. Excellent film, très très bien fait, qui raconte son histoire. Alors, ce monsieur-là était député, c'était déjà un homme qui avait tendance à combattre des lois injustes, à proposer des nouvelles lois, faire des ajustements, tout ça. Puis, à un certain moment donné, il est parti en voyage en Europe, puis il lisait, il faisait des lectures avec un ami, et puis il s'est converti. Il a saisi l'Évangile, il a compris que lui-même était pécheur, il a vraiment saisi l'Évangile, et puis, donc, il est devenu quelqu'un qui lisait sa Bible tous les jours, qui cherchait à vivre à la lumière des Écritures. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, même si c'était en Angleterre, c'était une époque où c'était pas populaire d'être évangélique, d'accord? Ces gens-là n'étaient pas vus comme des gens très, très sages et intelligents, plutôt comme des espèces d'arriérés qui ont des vieilles valeurs. William Wilberforce a travaillé toute sa vie durant, à partir de ce moment-là, à faire adopter une loi qui conduirait à l'abolition de l'esclavage. Et 3 jours avant sa mort, cette loi-là a été adoptée. Simplement pour dire, les chrétiens peuvent changer des choses. Mais au fond de nous-mêmes, on sait que Dieu est souverain, que Dieu existe et que Dieu établit les autorités. Et donc, on ne prendra pas les mêmes moyens. Les chrétiens ont été souvent engagés à rétablir des justices sociales, particulièrement lorsque c'est pour quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Particulièrement lorsque c'est en faveur de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Alors, comment est-ce que je fonctionne dans une société où je me dis, OK, c'est une société de droit, mais il y a des lois injustes, une société de droit, mais je sais que ceux qui nous gouvernent, certains d'entre eux, sont tordus puis abusent de la loi. Comment est-ce que je fais pour fonctionner dans une société où je dis, oui, il y a des lois, mais on ne les fait même pas appliquer, donc moi, je serais le seul niaiseux de la rue qui l'appliquerait? Non, tu vas être le seul sage de ta rue qui sait qu'un jour, tous les hommes vont paraître devant Dieu. Et donc, que tu es en train d'honorer Dieu avant tout. Puis ça se peut que tu aies des opportunités de venir défendre des gens qui sont maltraités, des gens qui sont pas respectés, des gens dont on ne prend pas soin. Vas-y, fonce, c'est génial. Fais-le comme un chrétien. Fais-le comme un chrétien, pas comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Fais-le comme quelqu'un qui croit profondément en Dieu, en ce Dieu qui, à la croix, a réconcilié sa justice et sa grâce. Et donc, que ce soit pour défendre des droits, que ce soit face à des injustices, que ce soit dans mon rapport avec un gouvernement qui profondément est quand même gouverné par des pécheurs, je veux garder cette attitude de Christ sur la croix. Christ est là sur la croix devant un gouvernement injuste, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait déposer sa grâce sur eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ça, c'est la position par défaut de celui qui a reçu l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai trouvé ça intéressant dans ce passage-là. Si vous voulez regarder le texte avec moi, si vous avez votre Bible, je veux juste vous montrer le langage que Paul utilise. Paul dit dans Romains 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Rendre, devoir, donner à quelqu'un. Après ça, il va dire par rapport aux autorités, Romains 13, les versets 1 à 7, il parle encore de nos devoirs. Verset 7, il va dire, rendez à tous ce qui leur est dû. Il parle de ce qu'on doit, de ce qu'on doit rendre. Et lorsqu'on arrive au verset 8, il nous dit, voici la seule dette qu'un chrétien peut avoir. Voici la seule dette qu'un chrétien peut avoir. La dette d'aimer. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte, parlant de Dieu, parlant des autorités à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. La seule dette légitime d'un chrétien, c'est la dette d'aimer. Cette semaine, j'étais à une conférence à Orlando, à Gospel Coalition, puis à un moment donné, il y avait j'ai juste le terme en anglais, ce panel-là où il y avait différents hommes qui étaient là en train de discuter, puis ils parlaient de justice sociale. Est-ce que les chrétiens doivent chercher à être des bons samaritains au quotidien, puis tout ça? Oui, 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 évidemment. Puis à la toute fin, John Piper, pour ceux qui le connaissaient, a eu cette phrase, vraiment cette pensée vraiment extraordinaire que j'ai trouvée tellement imbibée, remplie de l'Évangile, tellement imprégnée de l'Évangile. Il a dit, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier pour les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas là dans leur rapport avec l'injustice qu'il y a dans la société lorsqu'ils voient quelqu'un qui est abusé. Les chrétiens ne sont pas là simplement pour rétablir la justice. Les chrétiens ne sont pas là simplement pour défendre le droit à la justice. Pour un chrétien, la justice, c'est le strict minimum. C'est le minimum qu'on peut avoir. C'est pour ça que Jésus va dire, si quelqu'un veut te voler ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un veut te frapper sur une joue, présente l'autre joue. Parce que le chrétien dépasse la justice. Parce que le chrétien n'a jamais reçu de Dieu la justice. Il a reçu la grâce. Et donc, pour nous, chercher la justice, c'est un minimum. On veut donner beaucoup plus que ça. On veut dépasser ça avec grâce, avec générosité, avec amour. À la fin de ce passage-là, Paul dit ceci. Il nous rappelle qu'on marche tous les jours dans l'attente, dans l'expectative du moment où on va retourner auprès du Seigneur, le moment où Christ va revenir. Et puis on arrive au verset 12, « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » C'est quoi le rapport entre ça puis chercher la justice? Le début du passage qu'on a examiné ensemble ce matin au verset 17, Romains 12, 17. « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Il semble que pour nous, chercher à établir toujours la justice nous conduit souvent, souvent, dans la vengeance, dans l'injustice à notre tour. Il semble que pour nous, ce ne soit pas la bonne posture dans nos relations à tous les jours de vouloir établir mon droit, établir la faute de l'autre, montrer que l'autre a manqué. Parce que quand je m'engage dans cette voie-là, je m'engage dans une voie de vengeance où ma chair, mon côté pécheur qui demeure, veut être assouvi. Donc j'ai le goût de vous dire, dorlotez pas trop votre charte des droits personnels. Parce que c'est très difficile de marcher sur cette ligne-là et d'être vraiment impartial. Concentrez-vous plutôt à tous les jours, dans vos rapports à la maison, au travail, avec les gens autour de vous, à rembourser votre dette d'amour. Vous avez une dette d'amour envers Dieu que vous ne serez jamais capable de rembourser. Et tout ce que Dieu vous demande, c'est de prendre cette charge-là d'amour incroyable que vous avez reçue personnellement, sachant que pécheur, j'ai été pardonné, pécheur, je serai pardonné encore. J'ai cette charge d'amour-là qui me rend en dette moi-même d'amour envers les autres. Laissez-moi l'illustrer comme ceci, parce que c'est super important pour être en santé comme chrétien. Imaginez un instant que vous avez un beau petit chalet dans le nord, sur le bord d'une rivière, super belle petite rivière. Je me rappelle d'une maison que mon père avait avec une belle rivière dans le nord, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Oh, c'était beau. Imaginez un instant que pour une raison quelconque, cette rivière-là tombe complètement à sec, devient complètement asséchée. C'est comme si, moi je repense à cette maison-là qui était au fin fond des bois, à pas de rivière, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, on l'a fait déplacer la maison. Plus d'intérêt. Cette rivière-là tombe complètement à sec. Puis quelques années plus tard, alors que c'est un endroit qui est devenu triste, en quelque sorte, de voir cette rivière-là toujours asséchée, quelques années plus tard, la rivière se remet à couler à flot. Se met à couler avec une grande abondance. Puis là, ben, moi je suis là, puis je me dis, regarde, je me ferai plus jamais avoir. Plus jamais, je vais couper la sortie de cette eau-là, puis je la garde pour moi. Ça va être mon eau à moi. Je veux toute cette abondance-là pour moi. Qu'est-ce qui va se passer? Tranquillement, je vais avoir un lac qui va s'arrêter, qui va déborder, qui va détruire tout ce qu'il y a autour. Puis tranquillement, ce lac-là va se corrompre. Et avant longtemps, cette eau-là ne sera même plus saine. Un chrétien, une personne qui reçoit l'amour de Dieu dans l'Évangile, et qui, à tous les jours, dans ses rapports à la maison, dans ses rapports avec ses enfants, avec son épouse, avec les collègues de travail, se sent pas constamment en dette simplement d'aller passer. Simplement de prendre tout ce qu'il reçoit et puis le passer, c'est quelqu'un qui va tourner mal. Parce que tu fais de l'Évangile quelque chose qui est juste pour toi. Mais l'Évangile t'a été donné comme une dette énorme. En réalité, l'image n'est pas vraiment bonne parce que je vais puiser à tous les jours là. Mais ça m'a été donné pour que je puisse le transmettre, que je puisse le laisser couler vers les autres. Et c'est seulement à ce moment-là que je vis au quotidien la puissance de l'Évangile. Et donc Dieu, cette semaine, va vous placer dans des situations, toutes sortes de situations où vous allez voir des injustices, où vous allez subir des injustices grosses comme ça, des injustices sociales, des injustices plus personnelles dans vos rapports les uns avec les autres. Vivez ces moments-là centrés sur l'Évangile de Jésus-Christ. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Rendez le bien. Soyez pas prompt à réclamer justice. Parce que Dieu va rendre justice un jour d'une manière terrifiante. Oh, par la grâce de Dieu, je vais être caché en Jésus-Christ et moi, je n'aurai pas à faire face à cette justice-là, mais ça va être un jour terrible. J'ai peur de ce jour-là pour les gens que j'aime, pour l'humanité, qui ne se tournent pas vers Christ. Mais je sais qu'un jour, ça va venir. Soyez pas prompt à réclamer justice. Allez puiser plutôt dans l'Évangile. Cette dette d'amour incroyable que vous avez envers les hommes. Incroyable. Et donc, ne donnez pas justice. Donnez la grâce. Soyez généreux. Faites-vous un point d'honneur de passer au-delà de ce qui vous est dû. Ça se peut que vous ayez des opportunités d'aller défendre la veuve et l'orphelin, d'aller défendre des situations. Le chrétien peut être dans des situations où il va réclamer qu'une loi soit appliquée. Mais je vais toujours faire ces choses-là avec cette disposition de cœur où je suis prêt à renoncer à mes droits. Parce que ce que je veux, c'est que les gens reçoivent l'amour. Voyez-vous, lorsque je lis les journaux, puis Dieu sait que je me tiens très informé. Lorsqu'on regarde le monde, on se dit « ce monde-là a besoin de plus de justice ». C'est vrai? Mais tout ça ne changera rien parce que le cœur de l'homme est méchant. Je crois que le monde a surtout besoin de plus d'amour. Et les chrétiens peuvent faire la différence parce qu'on connaît la justice de Dieu. Et on connaît que Dieu n'a pas opéré sa justice envers nous. Il a fait envers Jésus-Christ et envers nous ce qu'on a reçu, c'est son amour et sa grâce. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence pour te remercier. Te remercier, Seigneur, d'avoir manifesté ta grâce, ton amour envers nous. Non pas ta justice, Seigneur. Ta justice, tu l'as manifestée en Jésus-Christ. C'est lui qui a reçu ta justice, Seigneur. Et un jour, tu jugeras toutes les actions, toutes les paroles, toutes les pensées des hommes, Seigneur. Ta parole nous dit, et je crois, que ce sera un jour terrible. Parce que les hommes ne réalisent pas qu'il y a effectivement un Dieu juste qui ne laissera pas passer quelque injustice que ce soit. Seigneur, en attendant ce jour terrible, je veux m'appliquer avec Esther, avec Jade, avec Bastien, avec mes voisins, avec mes collègues ici à l'église, Seigneur, avec les gens que je croise lorsque je suis sur la route, lorsque je viens servir à Bouffe pour tous, avec ma famille, Seigneur, proche et éloignée, je veux m'appliquer, Seigneur, à payer cette dette d'amour que j'ai. Renonçant à réclamer constamment la justice, Seigneur, je veux plutôt être un témoin de ta grâce, de ta générosité, de ton amour, Seigneur. Je veux surmonter le mal autour de moi et l'injustice par le bien, Seigneur. Seigneur, je te prie pour toute personne ce matin qui va dans la vie réclamant justice, Seigneur. Je prie de lui accorder cette grâce ce matin de se voir devant toi, injuste qu'il est, Seigneur, et qu'il te voit, toi, Jésus, sur cette croix, recevant la justice de Dieu à sa place. Seigneur, qu'il puisse être baigné de ta grâce, de ton amour, de ton pardon. Merci pour le beau témoignage de Mamadou qu'on va voir bientôt, Seigneur. Ce témoignage de ta grâce, Seigneur. Je te prie de venir sauver et de venir te servir de nous cette semaine, Seigneur, comme des messagers de grâce et d'amour. C'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen.